quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre séquence midi. Au menu du jour, votre rendez-vous cinéma du mercredi et le pari de la région Nouvelle-Aquitaine de former 35 000 personnes dans la filière batterie. Tout ça, ce sera en seconde partie d'émission. Et comme chaque jour, vous retrouverez votre agenda, vos découvertes musicales. Mais tout de suite, je vous propose d'évoquer le dossier social qui agite toute la Vienne depuis quelques semaines, la prévention spécialisée. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir deux éducateurs de ce service, Jonathan Barnier, bonjour.
Bonjour.
Et Julien Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes l'un à Bélair, l'autre à Saint-Éloi, et donc vous êtes éducateur spécialisé dans ce service de prévention. Peut-être qu'on pourrait débuter par expliquer ce qu'est ce service de prévention spécialisé.
Alors, le service de prévention spécialisé, c'est un service de protection de l'enfance qui fait partie du schéma départemental de la protection de l'enfance. Les éducateurs de prévention spécialisée interviennent sur les quartiers politiques de la ville, donc sur Poitiers, sur 5 territoires, sur Châtellerault, sur 3 territoires. Et donc, on intervient auprès des jeunes âgés de 11 à 25 ans, ainsi que leurs familles, pour les accompagner dans les différentes difficultés auxquelles ils peuvent être exposés, que ce soit des difficultés liées à la formation, à l'insertion, des difficultés liées à des problématiques de protection de l'enfance, ou bien même à la réalisation de leurs projets, de leurs envies. Donc on va utiliser tout un tas de supports pour créer de la relation et les accompagner.
Et concrètement, à quoi ressemble une journée ou une semaine d'un éducateur spécialisé de la prévention de la Vienne ?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Dans notre métier, l'idée, c'est d'accueillir le public de façon inconditionnelle. Donc, on est souvent dans nos locaux, sur le quartier, aller à la rencontre du public, rencontrer les jeunes, discuter, échanger. L'idée, c'est déjà d'être un adulte, un interlocuteur qui les prend en considération, de pouvoir recueillir leurs paroles, leurs besoins, leurs envies. Et donc, sur une journée type, ça peut être un accompagnement à la mission locale, ça peut être un accompagnement chez les assistantes sociales de secteur, un rendez-vous au collège, ou accompagner un jeune ou recevoir simplement la parole d'une jeune fille qui vient nous voir parce que ça fait longtemps qu'elle est en lien avec les éducs sur le quartier et qu'il y a une situation familiale un peu délétère en ce moment, que c'est compliqué avec les grands frères, avec les parents. Voilà. On vient aussi faire de la médiation familiale assez régulièrement et travailler ces questions en effet de protection de l'enfance. Donc c'est des fois juste prendre le temps de faire un goûter, de faire un atelier repas et puis des fois de recueillir la parole d'une jeune fille qui vient nous parler de projet de mariage forcé qu'elle a entendu par son grand frère ou par sa mère.
Et ça concerne combien d'enfants à peu près ?
Alors ça concerne en moyenne 200 enfants et familles par territoire. Donc, sur les 5 territoires, on va être autour des pas loin des 1000 jeunes accompagnés sur Poitiers. Alors on les accompagne, nous évidemment, avec nos principes d'intervention qui règlent notre action sur les territoires, mais on les accompagne également aussi avec l'ensemble des partenaires du territoire, de nos quartiers, mais de Poitiers et de la Vienne. Donc on travaille avec, comme vient de le dire Jonathan, l'éducation nationale, les centres sociaux, l'hôpital, les assistantes sociales, avec tous les partenaires
vous
pour accompagner.
Du lien,
Absolument, on essaye de créer du lien entre les publics qu'on accompagne et aussi entre les différents acteurs du territoire.
Alors la mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques semaines, c'était lors du vote du budget du département de la Vienne. On sait que c'est la collectivité en charge de toutes ces questions sociales. Alors une petite réduction de budget en chiffres, on va dire, en proportion, mais qui au fait a des grosses conséquences. Racontez-nous.
Alors, du coup, le département de la Vienne a décidé de supprimer 250 000 euros du financement qu'il délivrait à l'association qui nous emploie, donc la DSEA 86. Ça représente à peu près un quart du budget. Donc un quart du budget, c'est pour les villes de Poitiers et Châtellerault, 5 postes d'éducateurs, 3 quartiers qui vont s'arrêter. C'est-à-dire qu'en termes d'organisation du travail et de la qualité de l'accompagnement qu'on peut proposer, dans l'organisation, les choses ont été actées sur la suppression de l'action sur le territoire de Belgeoine à Poitiers, sur les 3 cités et a priori sur le lac à Châtellerault. Donc c'est 5 éducateurs qui n'exerceront plus, donc 5 postes qui sautent. Et on estime au bas mot 400 jeunes et familles qui seront plus accompagnés, plus les effets ricochés, qu'on peut estimer à beaucoup plus. Mais on sait qu'il y a 400 jeunes qui seront désormais sans réponse et qui se présenteront devant des locaux qui seront fermés et sans adultes et sans éduc sur les quartiers pour les accueillir.
C'est vrai que pour le département qui a donc ses charges sociales, 300 millions d'euros pour les solidarités en 2024, dont 67 millions rien que pour la protection de l'enfance, avec des hausses et puis ce que dit le département, c'est des problèmes de non-compensation de l'État. 200 000 euros, ça paraissait pas forcément grand-chose, sauf que 200 000 euros pour la DSEA, c'est énorme.
Oui, absolument. 200 000 euros, 250 000 euros pour la DSEA, c'est pour le budget de notre service, c'est énorme. Hein. C'est donc en effet un quart de notre budget. Donc c'est 5 postes qui sont en danger. Et donc aussi une réduction de moyens pour effectuer nos actions d'accompagnement.
Ouais, je compléterai en disant qu'on a rencontré le département plusieurs fois, qui nous renvoie qu'en effet, il y a une hausse globale du budget de la protection de l'enfance et de l'aide sociale sur le département, qui renvoie aussi le fait que la DSEA, notre employeur, est une très grosse association qui touche environ 10 millions de financement du département. La réalité, c'est qu'on nous dit, voilà, bah, les 10 millions, ils peuvent être peut-être répartis de façon différente. Dans les faits, c'est pas possible, puisque ce sont des budgets qui sont contraints et fléchés. Donc quand le département donne 10 millions, il donne pas 10 millions, il donne plusieurs enveloppes sur différentes structures. Et quand il communique en disant bah, « vous avez 10 millions, vous pouvez répartir différemment pour maintenir l'activité », c'est faux et c'est illégal. C'est-à-dire que notre directeur, s'il s'amusait à prendre 300 000 ailleurs pour les mettre sur notre service, bah, il serait poursuivi en justice et ce serait normal, puisqu'on fait pas ce qu'on veut de l'argent public.
Alors, on vient de recevoir une réaction de Poitiers et Grand-Poitiers, puisqu'ils doivent signer aujourd'hui le contrat de ville quartier 2030, une grosse ambition pour les quartiers. Et donc, je les cite, dans ce contexte, la récente décision du département de diminuer son soutien à la prévention spécialisée qui agit dans les quartiers prioritaires de Poitiers et de Châtellerault auprès des jeunes en voie de marginalisation est un très mauvais signal avec des conséquences directes et immédiates. Le retrait déjà acté des éducateurs et éducatrices de rue des quartiers de Belle-Joanne et des Trois-Cités pour ce qui concerne Poitiers. Donc, ils vont bien signer ce nouveau contrat de ville, mais ils réaffirment leur engagement sans faille pour le développement des quartiers. Et nous appelons le département à revoir sa position et redisons notre volonté de rencontrer le président du département. Notre demande étant pour l'instant toujours sans réponse. Voilà, il y a un petit peu ce combat entre les collectivités aussi, voilà, dans ce cadre-là.
Hein. Oui, absolument. Il y a en effet une bataille un peu entre ces différents acteurs, financeurs, politiques publiques, qui essayent un peu de se renvoyer la balle. Alors on a, pour le coup, en effet, un soutien très clair, explicite, de Poitiers, Grand Poitiers, de certains élus. Alors on est assez présent dans les médias, on essaye en effet d'être présent dans les médias pour pouvoir communiquer, d'avoir le plus de rendez-vous possible aussi avec les institutions et ces élus, hein, pour eux. Transmettre ce message et nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est garder ces 250 000 euros. C'est surtout pas lâcher ce morceau-là pour qu'on puisse continuer à travailler dans les conditions qui sont, comment dire, les plus adaptées et pour continuer d'accompagner les familles et les jeunes avec qui on est quotidiennement.
Donc il y a les médias et vous avez mis en place une pétition aussi pour soutenir votre action ?
Alors, tout à fait, on a mis en place un site internet qui regroupe une pétition, une tribune qui est aussi amendée par beaucoup de politiques et de différents acteurs de la vie publique, hein, des sociologues, des psys. L'idée, c'est de communiquer assez largement sur ce qu'on fait et sur ce qu'on traverse, donc il y a aussi des témoignages. Alors, le site, c'est sauvonslaprev86.fr, donc je vous invite à venir signer la pétition et à nous soutenir. L'idée vraiment, encore une fois, c'est de communiquer sur nos missions. Nos missions, c'est de la prévention spécialisée. Donc c'est d'être présent avec les jeunes en amont des difficultés qu'ils rencontrent et du coup de prévenir des situations délétères et difficiles auprès des publics les plus fragiles. La prévention spécialisée, si elle intervient sur les quartiers prioritaires, c'est bien parce qu'on est face à des publics qui sont en difficulté. Et il y a un intérêt à être en lien avec elles et eux. Et de prévenir, donc d'éviter des situations encore plus complexes et donc d'éviter, si on parle de façon pragmatique aux financeurs, d'éviter des coûts financiers supplémentaires.
Oui, parce qu'on se rend compte au niveau national qu'il y a une violence des jeunes qui est mise en avant actuellement. Là, c'est l'occasion de mettre en valeur votre travail. C'est justement pour éviter qu'ils aillent jusqu'à ces actes de violence, peut-être ?
Ouais, absolument. Hein. C'est là où la prévention porte bien son nom. On essaye d'intervenir avant que les choses deviennent trop complexes, hein, que les soucis deviennent insolubles, que ce soit sur des problématiques de protection de l'enfance ou de délinquance. Donc nous, en effet, on aborde notre prisme de vision sur la jeunesse et que ce sont des enfants en danger. Et donc ça, ce sont les termes de la protection de l'enfance, la prévention de la délinquance, hein, qui fait aussi partie de nos actions, voit la jeunesse différemment. En effet, plutôt une jeunesse dangereuse. Et donc, forcément, l'approche de cette jeunesse et les moyens de l'accompagner sont évidemment différents en fonction du prisme par lequel on le voit.
Vous avez déjà fait un rassemblement également. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues ces prochains jours ?
Tout à fait. On a un rassemblement qui est prévu le 30 mai prochain à partir de 9h devant le conseil départemental. Alors, c'est la suite. On a fait un premier rendez-vous le 29 avril qui a été assez important puisqu'on a été reçu au sein du conseil départemental. On a pu y faire une prise de parole. Il y avait beaucoup de soutien qui était présent, beaucoup de collègues, mais aussi beaucoup de partenaires. Je leur dis parce que c'est important notre travail, c'est d'être en lien avec plein de structures et plein de dispositifs. C'est du maillage. Et du coup, quand on enlève un maillon de la chaîne, forcément, la chaîne tient plus. Et du coup, ce soutien-là, il était important. Donc, on a des délégations de l'éducation nationale qui étaient là, des collègues des missions locales, des CMP, de l'hôpital, et j'en passe. Et évidemment aussi des familles et des jeunes qui étaient présents. Donc voilà, le 30 avril, on remet ça à partir de 9h devant le conseil départemental.
Le 30 mai donc.
Pardon, 30 mai.
30 mai. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Séquence Midi nous parler de cette situation. Donc Jonathan Barnier et Julien Bonnet, donc éducateurs spécialisés à ce service de prévention de la Vienne. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
On continue en musique. Je vous propose de découvrir The Caracol Project. En fait, derrière, c'est Félix Burneau qui s'est fait connaître à ses débuts en tant que producteur de drum and bass. Et maintenant, il passe une étape et sa musique évolue vers un mélange plutôt pop, basse musique ou chant, guitare et batterie. Viennent s'ajouter au son des machines, comme on le découvre dans son récent morceau Under the Northern Lights.
I'm so mad, I'm so mad, I'm so mad under the northern lights. I can't tell if you'd lie to my eyes about the northern lights.
Curieuse et citoyenne.
Au début du mois d'avril, Alain Rousset, président du conseil régional des Nouvelle-Aquitaine, lançait Batena pour batterie en Nouvelle-Aquitaine. Le but est de développer les formations de la filière batterie dans la région. Et pour en parler, on accueille tout de suite Jean-Sébastien Rémy, qui est responsable gestion et services à l'AFPA de la Vienne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous parler de ce projet Batena qui réunit une vingtaine de partenaires dans toute la région Nouvelle-Aquitaine. En quoi ça consiste en fait ?
Alors en fait, ça consiste à se rassembler pour répondre à un besoin et à un nouveau marché, puisque de la batterie, aujourd'hui, on a de plus en plus de besoins sur les batteries, notamment dans l'automobile. Et le constat, c'était qu'on n'avait pas forcément les personnels qualifiés en face. Donc l'idée consortium, c'est de voir les besoins qui vont être à l'avenir et de pouvoir former, préparer les gens de cette filière. Donc on est sur un consortium de 24 partenaires. Il y a des industriels, il y a des organismes de formation. Et voilà, se mettre tous autour de la table pour savoir comment on peut avancer dans ce but.
Donc oui, parce qu'en fait, c'est bien beau de faire venir les entreprises, mais si on n'a pas le personnel en face pour travailler dans ces entreprises, c'est compliqué. Alors justement, l'évaluation du besoin, là, la région parle de 35 000 personnes formées.
Oui, c'est l'objectif, hein, 35 000 personnes formées, alors sur diverses compétences, mais notamment on a des acteurs locaux, des entreprises qui sont en train de se développer dans la batterie et qui seront de futurs pourvoyeurs d'emploi, donc sur différentes compétences. Mais on, là, si on parle vraiment que de la batterie, on est sur un métier assez récent, donc il faut apprendre à fabriquer, à entretenir, à diagnostiquer, et c'est sur ces diverses compétences qu'on doit aller.
Donc il y a 60 millions d'euros, je crois, qui sont investis dans ce projet. Dans la Vienne, on a Forcy Power, par exemple. Voilà, il y a plusieurs entreprises, même localement, hein, qui se développent dans les batteries.
C'est ça, oui. On a plusieurs entreprises qui sont développées. Et nous, donc, le but de l'AFPA, c'était vraiment de se rapprocher de ces entreprises, d'évaluer, de comprendre leurs besoins et de créer un titre de formation, une formation spécifique à leurs besoins. C'est d'être vraiment connecté à ce tissu et à l'industrie pour ne pas avoir une formation qui serait pas en relation. Donc l'idée, c'est de rendre employables les gens qui sortiront de formation.
Et alors, vous êtes dans les premiers à avoir dégainé, on va dire.
Oui.
Et donc, à proposer des formations, quels sont justement les besoins que vous avez identifiés alors ?
Alors, pour être dans les premiers, effectivement, c'est date de 2019, hein, le partenariat, enfin, ça a été signé Batena au 5 avril, mais nous, depuis 2019, on est une pépinière et un incubateur de ce projet, donc il y a eu des choses de fait, et on a voulu vraiment travailler en amont pour voir les besoins de l'entreprise et créer, donc on est le premier en France à avoir créé un titre au niveau national, reconnu par le ministère du Travail, et donc on a fait l'ingénierie et la création de ce titre de A à Z. Donc c'est vraiment, l'AFPA de Châtellerault a été pionnier dans ce métier.
Donc va pouvoir peut-être même inspirer les autres.
Oui, j'espère, effectivement, c'est d'être le moteur et puis d'emmener les autres avec nous. Après, on a aussi d'autres AFPA qui, au niveau national, hein, on a Hasbrouck dans le Nord qui part sur la déconstruction, puisqu'il faudra retraiter, donc on a la construction, mais on a aussi le côté déconstruction qu'il faudra un jour anticiper. Donc c'est vraiment une volonté nationale et régionale, puisque là on s'inscrit dans la volonté d'aider les entreprises qui sont en train de s'installer dans la Vienne ou dans la Nouvelle-Aquitaine pour trouver du personnel.
Donc à qui vont s'adresser ces formations ?
Alors, elles sont assez larges, hein. Vous avez, nous, les formations, on a plusieurs types de formations suivant, en fait, les degrés de compétences des gens. Et l'idée, c'est vraiment... Alors, il y aura la partie très, très technique de techniciens qui vont vraiment travailler sur du matériel, mais on peut avoir aussi des agents de fabrication qui s'inscrivent sur une ligne de fabrication et avec des compétences différentes. Donc on a un public assez large. On peut aller de la personne qui a un niveau ingénieur à la personne qui est un simple agent de production.
Oui, vous avez développé trois titres pro là, qui ouvrent là, à la rentrée, c'est ça ? Quand est-ce que ça se met en place ?
Alors on a le AAMBA qui est un titre niveau CAP et BEP, un niveau bac, et on a aussi donc AFI batterie, donc ça c'est agent de fabrication industrielle, qui est une formation qui existait déjà, mais sur laquelle on peut donner une couleur batterie, hein, puisqu'on est déjà sur des processus et de fabrication industrielle qui sont les mêmes, mais il faut les adapter au monde de la batterie.
Donc vous avez déjà ouvert certains, il y en a d'autres qui vont se développer. Et il y a aussi, vous voulez être formateur de formateurs ?
Oui, donc on a le titre formateur professionnel. Donc effectivement, c'est de former des formateurs, puisqu'on ne les trouve pas sous le sabot d'un cheval. Là, aujourd'hui, ils n'existent pas forcément. Donc il faut former les gens, mais des gens aussi pour les former. Donc ça, en amont, il faut qu'on prévoie ça rapidement.
Pour donc alimenter les autres organismes.
Ouais, le nôtre en premier, et c'est effectivement.
Et puis les autres ensuite qui vont se développer petit à petit. Hein. Il y aura des formations qui vont ouvrir chaque année jusqu'en 2028, je crois.
C'est ça, oui.
Il y a plusieurs formations qui se mettent en place dans les IUT. C'est intéressant, peut-être que ça développe aussi d'autres types de partenariats qu'il n'y avait pas forcément avant entre les organismes de formation localement ?
Ben oui, ça crée une émulation, effectivement. On est obligé de communiquer, d'avoir des relations peut-être plus étroites, dans l'intérêt de développer au plus vite cette formation.
Est-ce que vous communiquez aussi auprès des jeunes pour les orienter vers ces filières-là ? Est-ce qu'il y a ce volet-là de communication, de pédagogie ?
Oui. On est, il faut démocratiser cette voie-là, puisqu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler. On a tous recours et besoin de batterie, mais en fait, les gens pensent que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Non, à nous de prendre en charge cette partie-là, et notamment en local, puisque ça peut être aussi sur l'industrie, mais à terme, ça va être, je pense, au petit garage de proximité qui aura forcément un mécanicien qui sera maintenant spécialisé dans les batteries. Chose qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, effectivement, ça fait partie à mettre dans la culture générale. On va avoir besoin de techniciens quasiment dans tous les domaines pour toucher aux batteries.
Et donc 60 établissements et entreprises dans la région, et donc ces 24 partenaires qui mettent sur pied 200 formations quand même, c'est ça qui est prévu. Ça paraît peut-être un peu étonnant, pourquoi la région Nouvelle-Aquitaine se lance, de façon franche dans cette filière ?
Ouais, je pense que c'est un intérêt commun, c'est déjà pour grandir au niveau de l'emploi, amener de l'emploi et de l'emploi qualifié. Donc je pense qu'il y a cette première optique qui est là, et puis aussi de reprendre un peu la main sur ce que l'on fait beaucoup à l'étranger et réindustrialiser tout ça, donc quitte à faire, autant qu'on soit les premiers.
Et puis toute cette question de transition écologique qui passe forcément aussi par ces batteries. Hein.
Aussi, oui. On est aujourd'hui dans une filière dite verte ou vertueuse, donc je pense qu'il faut être acteur plutôt que de prendre le train en marche.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Rémy, donc responsable gestion et services à l'AFPA de la Vienne, d'être venu nous présenter ces formations là qui se lancent déjà dans la Vienne, dans la filière batterie. Merci beaucoup.
Merci à vous.
On continue avec votre rendez-vous cinéma, puisque Candice Mottet-Debert, médiatrice auditrice, est avec nous. Bonjour Candice.
Bonjour.
Et aujourd'hui, tu nous parles de Civil War, un film d'auteur américain.
Oui, tout à fait. Civil War, donc guerre civile, hein, tout un programme. Alors, c'est un film interdit aux moins de 12 ans, on précise. C'est le nouveau film d'Alex Garland, qui est un auteur indépendant américain qu'on aime beaucoup, qui avait à l'époque été scénariste du film d'horreur 28 jours plus tard, et puis qui est revenu avec Ex Machina, un film de science-fiction extrêmement épuré qu'on a beaucoup aimé. L'année dernière, on a sorti son film d'horreur Men. Donc vous avez vu, c'est un cinéaste qui s'attaque à tous les registres et nous surprend à chaque fois, c'est excellent. Alors là on est sur un film qui a eu beaucoup quand même de marketing, on est avec la grande actrice Kirsten Dunst, Wagner Moura, qu'on avait vu dans la série Narcos, qui interprétait Narcos. Donc on est sur un film américain qui dure 1h50 et c'est dans un futur très proche, très très proche, voire c'est cette année en fait. C'est une équipe de journalistes qui va voyager à travers les États-Unis d'ouest en est, pendant une deuxième guerre civile, donc ça veut dire qu'une première est déjà arrivée, qui a englouti le pays tout entier, qui oppose le gouvernement fédéral aux, je cite, forces occidentales séparatistes, qui sont dirigées à la fois par le Texas et la Californie. De ces guerres civiles, vous n'en saurez rien. Pendant le film, ce n'est pas le point de vue d'Alex Garland, ce n'est pas ce qui l'intéresse. De toute façon, on se doute bien de pourquoi ce pays pourrait se déchirer. Non, ce qui l'intéresse, c'est le point de vue de journaliste. Et vous allez avoir des personnages très étonnants qui, en fait, sont presque neutres par rapport à ce qui se passe. Et il y a toute une réflexion sur le métier de journaliste, de reporter de guerre, de comment on couvre à travers les médias les actualités. Ça peut intéresser Pulsar, tout ça.
Tout à fait.
Donc c'est assez passionnant. Je vais vous lire un petit passage de la critique de Télérama. Pardon. Imaginez, en pleine crise Covid, Civil War ouvre le feu d'entrée de jeu. Une guerre civile ravage les États désunis d'Amérique, sans que l'on sache ni quand ni comment elle a commencé. Le cinéaste anglais s'abstient de penser les divisions idéologiques de l'Amérique contemporaine, trumpisme, fondamentalisme chrétien, questions raciales évidemment, et adopte le point de vue bizarrement assez neutre de ses journalistes fictifs, tout concentré qu'il est sur la spectaculaire efficacité de son film de guerre. Car oui, à cet endroit, le blockbuster, plus gros budget du studio indépendant A24 à ce jour, impose une force brute, un éprouvant voyage au bout d'un enfer où l'on comprend rarement qui tue qui ou pourquoi. C'est vraiment un très beau film que j'ai eu l'occasion de voir, que je vous incite franchement à venir voir. On l'aura les deux dernières semaines du mois de mai, bien sûr, en VOSTFR. Et peut-être on le reprendra un petit peu en juin si vous vous montrez enjoué sur ce film.
Et puis c'est l'année des 40 ans du Dietrich, et donc vous débutez les festivités.
Tout à fait. Alors les festivités, le vrai festival, il aura lieu en octobre. Mais chaque mois, on fait une séance spéciale pour un peu égrener les films qui ont marqué 40 ans de cinéma. Bon, encore une fois, tout un programme. Cette fois-ci, jeudi 30 mai, après la manifestation du matin de nos chers collègues de l'ATSEA. Le jeudi 30 mai à 20h30, vous pourrez découvrir Innocence, hein, qui est un film français, un conte étrange, de la réalisatrice Lucile Hadzialilovitch, qui nous fait le plaisir de venir. Elle vient chaque année pour nous présenter ses nouveaux films. C'est une cinéaste que l'on adore, qui a vraiment un univers très particulier. C'est son mystérieux et brillant Innocence, hein, qui est une libre adaptation de la nouvelle Miné Haha de l'éducation corporelle des jeunes filles de Frank Wedekind, qui a été écrit en 1903. Et c'est son premier long métrage, hein, qui va débuter son univers unique. Dans un mystérieux établissement où on enseigne la danse et les sciences naturelles, trois jeunes filles vont découvrir les étranges lois qui régissent cette école. Alors on a les premiers pas d'une petite actrice qui s'appelle Marion Cotillard, on a Hélène de Fougerolles et bien sûr tout un casting de jeunes filles, hein, d'enfants, qui vont mettre ce film un peu sur pied. Interrogation sur le bien fondé des non-dits dans l'éducation, Innocence s'apprécie comme une rêverie grave, belle et riche en métaphores animalières et aquatiques, sur l'état d'innocence qui précède l'entrée dans l'adolescence. Une innocence n'excluant pas ni la jalousie ni la violence, et conçue avant tout comme ignorance des choses de la chair. Lucile Hadzialilovitch nous offre là un premier film inclassable, et c'était une critique de nos collègues Abus de Ciné.
Merci beaucoup Candice, on te retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils cinéma. Demain dans Séquence Midi, on parlera du site des tours de Mirande avec Kimi sur le numérique pour attirer de nouveaux visiteurs et puis un projet de vie collectif Ecovie. Et tout de suite, c'est l'heure de vos idées sorties. De 13h30 à 17h, les Européens votent Europe Direct et Sauvons l'Europe anime une permanence à l'hôtel de ville de Poitiers pour vous informer sur les élections européennes. Sachez que pour cette élection du 9 juin, il est pour la première fois possible de faire votre dossier de vote par procuration sur Internet. Le rendez-vous de la permanence, c'est salle 105 à l'hôtel de ville de Poitiers. Au Tap Castille pour le jeune public, le film Super Lion à partir de 6 ans et à 14h30, il y a une projection suivie d'un quiz. Voilà le pitch. Evie, 11 ans, n'est pas une fille ordinaire. Elle jongle entre l'école, ses amis et sa passion pour les jeux vidéo. Mais chut, elle a un incroyable secret. Son papa est Super Lion, le super-héros le plus cool de l'univers. Ce sera bientôt à son tour de montrer ses pouvoirs et de plonger dans l'aventure la plus folle de sa vie. À 18h, manifestation pour un cessez-le-feu en Palestine, donc c'est à Poitiers. Et puis la foire de Poitiers débute aujourd'hui au parc des expositions de Grand Poitiers et jusqu'à lundi. Il s'agira de la 88e édition à Poitiers. Le thème de 2024, saveur du monde, avec des espaces thématiques, Thaïlande, île du Pacifique, Canada, Portugal. Les saveurs d'ici qui seront aussi à l'honneur avec un village gourmand, 200 exposants sur la maison, le jardin, les artisans créateurs, les loisirs, la gastronomie, avec même le retour des camping-cars, avec un pôle mobilité au complet, la tour Eiffel du livre Guinness des records et puis sport et jeux olympiques au programme bien sûr cette année, à la découverte du programme du relais de la flamme, du basket 3-3 avec des initiations et démonstrations sur l'espace de Grand Poitiers. Vous pourrez vous essayer pendant 2 jours aux disciplines olympiques avec l'OMS et Grand Poitiers. Et puis dans les actions solidaires, il y a le super loto du secours populaire. Au programme, 30 concerts et spectacles gratuits et puis l'entrée aussi est gratuite. Sur Pulsar à 18h, c'est Jazz Product, à 21h, l'Indépendance, à 23h dans Sono de Kino, Rebecca Warrior et Maud Jeffrey, séries, films, documentaires, courts-métrages et spectacles. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. Chanteur, producteur, compositeur, Joe York naît et grandit dans le nord-ouest de l'Angleterre au cours des années 90. Le live d'un côté, le sound system de l'autre, Joe York a très tôt embrassé la scène reggae dans son ensemble, mais sans pour autant se laisser contraindre par ses codes. Sa musique repose sur de solides bases rocksteady et dub jamaïcain, mais ses influences se trouvent aussi bien dans la soul, la folk, le dub techno que dans la musique expérimentale. On se quitte avec son titre Hopeless. Bon après-midi, à demain.